Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, 107 FM et radiobarthas.net. Il est très exactement midi et des poussières, l'heure de ce rendez-vous radiophonique consacré aux événements, aux initiatives, aux rencontres et aux paroles locales. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que si vous avez envie de venir vous exprimer à ce micro, si vous avez des choses à dire qui vous semblent importantes à partager, les portes sont ouvertes et comme le dit notre charte dont on a parlé hier soir lors du CA de Radio Barthas, je la cite, en tant qu'interlocuteur des différents acteurs de la vie locale, Radio Barthas se doit de recueillir, transmettre et valoriser les événements et initiatives que la population porte et dont elle nous fait part. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail à contact@radiobarthas.net ou même par téléphone ou SMS au 07 46 26 40 21.
Midi et des poussières.
Et tu es avec moi en studio ce midi, Léo. Salut.
Salut Raph, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices.
Tu es là car tu as justement invité deux personnes qui ont des choses importantes à nous dire, à dire aux auditrices et aux auditeurs de Radio Barthas, alors je te laisse les présenter.
Et si Stevenson avait troqué Modestine contre un vélo ? On accueille aujourd'hui sur le plateau de Midi et les Poussières Marc et Mallory, cyclo-voyageurs et cyclo-voyageuses à la tête de la micro-entreprise Cartocyclo qui vient tout juste de sortir leur tout dernier atlas cartographique, le chemin de Stevenson, gravel et route. Salut Mallory.
Salut.
Salut Marc.
Salut Léo.
Vous n'êtes pas de simples cyclo-voyageurs et voyageuses, vous profitez de la plupart de vos voyages à vélo pour cartographier le terrain, découvrir les meilleurs tronçons routiers et tout regrouper dans des atlas pour permettre à d'autres personnes de voyager sereinement en sachant où poser leurs roues. Cartocyclo, c'est le nom de votre micro-entreprise. On peut retrouver actuellement 6 atlas guides différents, voire 5 et demi. Les Cévennes, l'Ardèche, le Massif Central, un focus sur Florac et donc des boucles, et le fameux canal des deux mers qui est oui. Parti de les demi. Et votre petit dernier, le chemin de Stevenson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus de création de vos cartes et c'est leur spécificité par rapport à potentiellement d'autres cartes ?
Alors le processus, en fait, donc moi je suis géographe à la base, donc les outils cartographiques je les gère. Mallory est, a une formation d'éditrice, donc du coup l'idée de faire Cartocyclo c'est un peu imposé à nous. Et puis l'idée de base c'était simplement en fait de faire des cartes qui nous en tant que cyclo-voyageurs nous conviennent, c'est-à-dire qu'on va mettre dessus toutes des informations qui sont utiles aux cyclo-voyageurs. Comme tout ce qui est relatif au relief, mais aussi des points d'information intéressants comme les boulangeries, savoir où est-ce qu'elles sont, parce que dans le Massif Central, trouver une boulangerie, c'est pas forcément une chose facile, et faut savoir où est-ce qu'elles sont, surtout quand t'es à vélo ou à pied d'ailleurs. Il y a ça, il y a aussi des logements, des campings, etc. Des points d'eau, des tables de pique-nique pour manger assis, ça fait plaisir. Et tout ce genre de choses.
Ça se passe comment ? À partir du moment où vous avez l'idée et le moment où la carte sort, il doit y avoir plein de petits tronçons de vie différents où vous allez sur le terrain ?
Il y a plein d'étapes, c'est pas toujours forcément organisé parce qu'en fait on part, on a surtout envie de rouler à vélo, donc on part sillonner. On n'a pas toujours forcément l'idée de départ. Bon, c'est vrai que Stevenson c'était plus facile parce que c'est un chemin qui existe, donc on était déjà un petit peu plus délimité dans l'espace, mais c'est pas toujours le cas. Et on part rouler, on profite, on repère, on teste et on rentre à la maison, on travaille sur la carto, on repart en terrain. On revient travailler sur la carto, on fait de la rédaction aussi parce qu'il y a beaucoup de d'informations sur tous les lieux traversés, des anecdotes, l'histoire, la géo. Donc il y a plein de choses aussi à rédiger. Et donc ça fait beaucoup d'allers-retours comme ça entre le vélo, le travail technique et la rédaction.
Beaucoup de relecture aussi du livre de Stevenson. Hein.
Oui, il y avait quelques relectures. Oui.
Beaucoup de fautes retrouvées au fur et à mesure des relectures. Ou c'est pas quelque chose qui...
Alors, pas des fautes, mais vraiment essayer d'arriver à repérer avec toutes les infos que lui donne. Il passe par tel village, il est passé par tel type de il a vu, par exemple, quand il voit l'Aigoual, ben nous, par exemple, on se rend bien compte que l'observatoire n'était pas encore construit. Donc, en fait, quand il voit l'Aigoual, c'est juste un pic nu et il n'y a pas encore l'observatoire dessus. Donc, en fait, ça, c'est pas des erreurs, c'est des choses qui, moi, me font voyager ben, dans le temps en plus de l'espace. Et voilà, on repère ce genre de choses-là, toutes les différences qu'il y a. Parce que ça date quand même un petit peu. Hein.
Les gens ne le voient pas, mais sous nos yeux dans le studio, vous avez rapporté un exemplaire de ce chemin de Stevenson. Qu'est-ce qu'on voit dans vos guides habituellement, dans vos atlas? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir en les ouvrant?
En les ouvrant, il y a tout d'abord ce qui saute le plus aux yeux, c'est la partie cartographie hein, qui prend quand même une face de la feuille. Et de l'autre côté, il y a un petit résumé technique sur ce qu'il y a de l'autre côté sur la page, avec des informations relatives à la trace gravel et à la trace route aussi. Et puis à côté de ça, il y a aussi un QR code qui mène à une page sur notre site internet, parce qu'on a un mini site qui est dédié au chemin de Stevenson, gravel et route, dans lequel on donne encore plus d'informations parce qu'on peut pas tout mettre sur le papier non plus.
Donc petit aparté pour les néophytes qui n'auraient pas les termes, c'est quoi la différence entre la route et le gravel?
La route, c'est du bitume. Le gravel, nous, on l'a défini comme étant des pistes forestières sans difficulté technique. C'est pas du VTT. Alors, fatalement, le vrai gravel, comme ça vient des États-Unis, c'était vraiment les routes en terre hyper faciles. Ici, c'est pas toujours évident d'avoir des routes aussi faciles, enfin des pistes gravel aussi faciles. Mais on a considéré que c'était des pistes sans difficulté technique trop forte. Et donc, d'ailleurs, moi qui suis pas trop une technicienne VTTiste, c'est facile pour moi. Et en plus, on fait nos tests en ayant notre chien dans la carriole derrière le vélo. Et si ça passe avec tout cet attirail-là, bah, c'est que c'est pas trop technique.
C'est des routes qui peuvent être prises avec un vélo de route, mais des pneus un peu plus épais que ouais, pour de la route.
Exactement. D'ailleurs, nous, on fait tout, pour ceux qui se connaissent un petit peu, on fait tout avec des vélos rigides. Hein, donc, on n'a pas d'amortisseur ni quoi que ce soit.
C'est marrant que ce soit le chien qui permette de définir si la route est trop technique ou pas. C'est un peu l'étalon.
Ouais, c'est vrai. Et c'est elle aussi qui nous dit si c'est joli ou pas.
À chaque fois qu'il y a un aboiement, vous mettez une petite trace en plus dans le guide ouais, sur le lieu précis.
Validé
par Kiwi.
Vous avez aussi des versions en ligne de vos cartes et de vos guides. Comment on peut y accéder? Est-ce qu'on peut accéder à la fois au papier et en ligne en même temps? Est-ce que c'est l'un ou l'autre?
Alors oui, bah, quand on achète la version papier, on a accès aussi à la partie numérique. Donc la partie numérique qui est composée principalement de l'atlas cartographique, mais en version carte interactive, c'est-à-dire qu'on peut zoomer pour avoir un peu plus de détails, pour avoir, par exemple si on veut avoir des informations sur les noms de camping, etc., ben on peut zoomer pour avoir le nom du camping. Donc il y a la carte interactive, et puis à côté de ça, il y a aussi les traces GPX des différentes traces.
Et où est-ce qu'on peut les trouver, les cartes en papier, acheter?
Alors, à Florac, pour le moment, le Stevenson est disponible déjà à la Maison du Vélo. Il le sera probablement à la Berlu, chez TUF Aventure, et on va essayer aussi d'en mettre à la Maison du Parc.
Tracer des routes pour les gens, ça a quelque chose de très personnel que l'on partage. Est-ce que vous avez une vraie volonté dans vos traçages de sortir un peu des chemins habituels, de faire passer les gens par des endroits qu'ils ne connaîtraient potentiellement pas? C'est quoi votre intention derrière le choix d'une route?
Alors déjà, le fait de travailler dans le Massif Central, dans les Cévennes, ces itinéraires-là, c'est déjà sortir des sentiers battus, parce que justement, le premier demi-atlas dont tu parlais, c'est le canal des Deux Mers. C'était en fait le premier atlas qu'on a sorti, qui lui est vraiment très connu. C'est un itinéraire que beaucoup de gens parcourent. Et justement, c'était pas trop reconnu. On avait travaillé ça pour essayer de faire sortir les gens de la trace officielle et leur faire découvrir d'autres choses. Mais bon, c'était pas non plus tout à fait... On sentait bien que que notre ADN n'était pas là. Et donc on travaille en fait un petit peu sur un terrain vierge par ici, parce qu'il n'y a pas vraiment, d'itinéraire qui existe. Il existe des boucles ou des itinéraires VTT, mais en route, vraiment dans le coin, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est déjà, on est face à une page vierge. Et après, en fait, le choix, il se fait. Nous, on le fait en fonction de plein de choses. Il y a la beauté de la route, le côté technique de la route. Par exemple, si c'est une route qui est, où il y a beaucoup de transit de voitures, on va essayer peut-être d'éviter si on a une autre qui est aussi intéressante. Mais ça peut être aussi parce que ça fait passer par un endroit en particulier où il y a du patrimoine, de l'histoire, parfois simplement une légende à raconter. Et donc, en fait, on trouve un espèce d'équilibre avec tout ça. Et au bout d'un moment, c'est une évidence. Et on fait passer par ces endroits-là. Voilà.
Et donc, dans votre le chemin de Stevenson, Gravel et Route, j'imagine que les routes qui sont prises ne font pas partie forcément du GR. Et il y a eu, des questions qui sont posées. Ça a été une vraie question de se dire « Ah tiens, cette route, pas celle-là
Eh oui, en fait, au départ, en fait, vraiment, le GR pourrait être parcouru en VTT. Il y a des endroits qui sont quand même très techniques, vraiment très, très, très techniques. Et puis, il y a aussi beaucoup de randonneurs avec des ânes. Donc, c'est, en termes de cohabitation, ça peut être compliqué. Donc, nous, ce qu'on a fait pour la version gravel, d'abord, c'était d'essayer d'enlever juste toutes ces parties qui sont trop techniques, trop difficiles, trop sportives ou trop étroites. Et de les remplacer par, de préférence, d'autres pistes qu'on aurait trouvées par ailleurs. Et puis pour la route, c'était d'arriver à trouver quelque chose qui soit un équivalent aussi intéressant, aussi chouette à sillonner, mais qui est parfois plus reposant aussi, parce que la route est parfois plus reposant que le gravel.
Souvent d'ailleurs.
Et on peut passer de l'un à l'autre très facilement.
Ouais, il y a plusieurs points de connexion entre les différentes traces. Il y en a facilement une dizaine, je pense. Donc on peut facilement passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, nous, dans le guide, à certains endroits, on va dire « Ah, ben là, c'est mieux de passer par la piste gravel, par là, c'est mieux de passer par la piste route. » Enfin, c'est mieux. C'est notre avis, mais si les deux traces existent, c'est que c'est beau des deux côtés aussi.
En antenne, vous m'aviez dit que ça avait, qu'il y avait eu un joli départ de vente sur, enfin, joli départ, tout est à voir par rapport aux proportions. Vous en imprimez 250.
Ouais.
Et la première semaine, vous avez vendu
une trentaine.
Donc, c'est un peu plus de 10% déjà de votre stock qui s'est épuisé. Il faudra bientôt refaire les mises à jour.
On verra.
Que dire? Est-ce que vous conseillez plus certains itinéraires que d'autres à des endroits précis? Est-ce que vous avez des petits coups de cœur sur le chemin de Stevenson et vous dites « Ah là, le côté gravel, c'est quand même vachement mieux que le côté route
?» C'est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Parfois, on le fait. Notre itinéraire préféré, c'est une alternance de route et gravel, parce qu'il y a aussi un bel équilibre. Mais c'est vrai que oui, il y a des tronçons qu'on a adorés. Et qu'on recommande particulièrement.
Ouais. Typiquement, je pense, entre le Boucher Saint-Nicolas et Langogne, on avait vraiment adoré la sortie du Boucher Saint-Nicolas, qui était sur des pistes super agréables, qui ont une couleur ocre, des paysages vraiment merveilleux sur un plateau, sur le Devesse. Mais de l'autre côté, l'alternative route, justement à cette trace, elle est super belle aussi, parce qu'elle change complètement de paysage. Là, on approche déjà, on passe déjà par, des lieux au nom assez évocateurs comme le Nouveau Monde, où du coup, on passe par les gorges de l'Allier, puis après, on va remonter sur les prémices de la Margeride. Et c'est des paysages très différents qui sont vraiment magnifiques tous les deux. Et donc, parfois, c'est compliqué de dire c'est mieux par là ou c'est mieux par là, quoi.
Il faut faire l'un et l'autre et encore plusieurs fois d'affilée, ouais, pour tout tester.
Et oui.
On a le temps sur une année. Merci Marc, merci Mallory.
Merci à toi.
Pour rappel, on peut retrouver votre guide soit sur votre site internet cartocyclo.net, fr.
Oui, moi, .net.
.net, ou alors sur Florac dans les différentes boutiques, je pense à la Maison du Vélo, à la Berlu, à Tuf Aventure, et même vos autres guides sur les environs.
Exactement.
Et oui.
Merci, merci beaucoup à tous les deux d'être venus et merci Léo pour cette interview rondement menée. Et d'ailleurs, en ton honneur et pour te remercier, je te propose qu'on écoute un musicien qui est presque ton homonyme puisqu'il s'appelle Louis Delhomme et lui, il a choisi comme nom de scène du coup Louis Hoffman, si ça peut t'inspirer à toi aussi un nouveau pseudo. Louis Hoffman donc tout de suite sur Radio Bartas.
La salle envolvía mi cuerpo. Me has dado muchos besos y me sabe todo a sal.
C'était Siesta Freestyle de Louis Hoffman avec Alicia Te Quiero. Ce titre est sorti sur l'EP Dancing Party en 2021 et Louis Hoffman vient tout juste de sortir un nouvel album le 3 avril dernier. Le titre c'est 50 kW et il s'écoute sur toutes les plateformes.
Midi et des poussières.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas, l'heure de donner maintenant la parole au Grand Boucan. Alors le Grand Boucan, c'est un être gigantesque, constitué de pas moins de 36 bouches, 72 oreilles, 180 doigts à ses 36 mains gauches et autant à ses mains droites, sans compter les jambes, les pieds et les orteils. Le Grand Boucan est un spécimen rare, voire unique, qu'on peut observer dans son habitat naturel en Sud-Lozère. Parfois ailleurs, faut avoir de la chance. Et pour le trouver, eh bien, il suffit de tendre l'oreille et de suivre les sons qu'il produit, des sons faits de cuivre, de bois, de cordes, car oui, le Grand Boucan est avant tout un être musical. Écoutez donc. Bonjour Johannes.
Bonjour.
Alors c'est toi qui viens parler au nom du Grand Boucan aujourd'hui, car pour une interview en studio, parler à 36 bouches, c'est pas forcément très pratique.
Ouais.
Donc toi, tu es le chef d'orchestre de cet orchestre, on peut dire ça?
On peut dire ça, ouais, on peut tout à fait dire ça.
Et bonjour Philibert.
Bonjour.
Alors toi, tu es le président de Passe-Montagne, le foyer rural du Pont de Montvert, qui s'apprête à accueillir le Grand Boucan. Alors j'ai tenté une présentation, moi, du Grand Boucan, mais c'était pas facile car je ne l'ai jamais encore vu de mes yeux vus. Comment est-ce que vous pourriez le présenter l'un et l'autre?
Déjà, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé la présentation. C'est chouette de l'entendre d'une autre bouche, d'un autre regard. Je commence, ouais, Philibert. Du coup, le Grand Boucan, enfin, c'est une aventure collective musicale. Je pense que c'est vraiment ça le plus proche. Donc moi, ouais, je suis chef d'orchestre, c'est moi qui dirige, qui encadre. Bon, je suis pas tout seul à gérer le collectif, hein, non plus. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que c'est un projet qui accueille des musiciennes et des musiciens de tout niveau. En fait, le principe de base, c'était de pas recruter sur le niveau musical, donc débutants, voire très très débutants acceptés. Et puis avec ce monde-là, donc une variété d'instruments, de faire une tambouille et de créer un concert, un projet musical. Quoi.
Philibert, comment toi tu perçois cet être qu'est le Grand Boucan?
Déjà, je trouve extraordinaire de réunir des amateurs, en fait, parce que je pense qu'il y avait quelques-uns, quelques-unes dans l'orchestre qui avaient leur instrument au grenier, tu vois. Et c'est l'occasion de réveiller aussi la fibre musicale de chacun, parce qu'il y a autour d'une énergie collective. Et puis voilà. Et puis en plus, moi je connaissais Johannes parce qu'ils avaient joué au Pont de Montvert. Je crois que c'était un de ses premiers concerts en Lozère avec son trio Birzing. Voilà, on s'était bien régalé. Il y avait un courant qui passe. Et puis voilà, il y a des musiciens du village, musiciennes, pardon, plutôt d'ailleurs, qui joue dedans, voilà, donc c'est une motivation. On connaît, on regarde l'affiche, on connaît la moitié des têtes, au moins, si ce n'est les plus.
Oui, en plus, l'affiche, elle est sympa, ça fait vraiment trombinoscope, donc moi aussi, j'ai regardé, j'ai zoomé pour voir quel visage m'était familier ou pas, c'est assez chouette, ça. Et oui, c'est en effet assez original de permettre à des personnes qui sont très débutants, voire même, enfin, qui débutent complètement la musique et les intégrer dans un orchestre. Comment est-ce qu'on fait pour travailler de cette façon entre des personnes qui maîtrisent, d'autres pas du tout? Comment ça se passe, une répétition du Grand Boucan?
Comment ça se passe? Ça se passe bien en général. Non, après, moi j'ai beaucoup travaillé. À la base, j'étais professeur en collège. En fait, je travaillais avec. C'est un moment que je travaille avec des. Par le collectif, en fait, en travaillant avec le collectif.
Ah bon? Ah, il y a un téléphone qui sonne.
Alors, c'est pour le solo, justement. pardon, je disais, oui.
Travailler
avec le collectif, ouais. Et en fait, il y a un peu des trucs aussi pour. Pour un peu se concentrer sur ce que moi j'appelle un peu les fondements de la musique en collectif, qui sont des petites notions harmoniques, des notions de rythme. En fait, à partir de ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Et après, la grande force d'un orchestre comme ça, on a commencé, on était 20 au début, hein, ça fait 2 ans et demi que ça a commencé. Et j'ai limité à 20 justement pour me dire, ok, comment on procède, parce que malgré tout, j'avais travaillé avec des enfants de cette manière, mais pas avec des adultes et pas avec autant d'instruments différents.
Mais attends, moi j'ai compté sur le trombinoscope, j'ai compté 36 visages.
Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, on est même 37. J'ai 37 personnes qui sont inscrites. Alors, on n'est pas toujours toutes et tous là au concert. Hein. Ça, c'est une petite gymnastique. Mais là, pour le coup, au Pont de Montvert, le 9 mai, on va être 30.
Et pourquoi ? Alors, tu disais que c'était limité à 20. Et qu'est-ce qui t'a motivé finalement à ouvrir ? C'est parce que ça marchait finalement bien ?
Ouais, c'était un peu le temps aussi de voir un peu comment ça allait évoluer. Parce que bon, plus il y a de monde, plus il y a aussi d'arrangements à faire avec différents pupitres. Donc en fait, on a ouvert d'autres pupitres, des synthés, des cuivres qu'on n'avait pas jusque-là. On a étoffé le pupitre des cordes aussi. Et voilà, mais c'est bien, c'est un peu une petite découverte. J'apprends en fait beaucoup aussi, je m'adapte et voilà, je fais au max quoi.
Et c'est un peu plus divers qu'un orchestre de 100% flûte à bec comme tu devais avoir au collège.
Ouais, alors la flûte à bec, il n'y a plus trop au collège finalement. Maintenant, ah, okay. C'est assez peu connu, mais en fait, ils ont arrêté en 2009, sinon je n'y serais pas allé.
Ah, je ne savais pas ça, tiens.
Ouais, ouais.
La chance. Et alors, est-ce que aussi en fonction du niveau des musiciens, ils vont avoir un rôle un peu différent, avoir une place différente, ou c'est vraiment complètement égalitariste ?
Je ne pouvais pas dire que ce n'est pas égalitariste, parce que j'essaie d'avoir en tout cas un regard un peu... de ne pas placer par rapport au niveau des rôles. Ça va être un peu plus en fonction des envies, déjà aussi, de celles ceux qui ont envie de prendre des places plus particulières, de ce que je sens. Après, moi, l'idée, c'est que j'essaie de... Je prends un peu toute l'équipe là où elle en est, mais j'essaie quand même de les faire évoluer, des fois de les mettre un petit peu en danger. Je les pousse sans les... J'espère pas les traumatiser. voilà. Et donc là, ça dépend un peu aussi des présences. Ça dépend... C'est pas forcément lié au niveau, en fait. Ouais, c'est pas lié au niveau. C'est lié, des fois, aux besoins du morceau. Ouais, c'est très humain, en fait, comme formation. Je sens un petit peu aussi comment... J'essaie de lire dans les regards s'il y a des envies cachées.
Philibert, tu rigoles au propos de Johannes. Ouais. Est-ce que toi, tu as participé à l'orchestre ?
Non, pas du tout. Non. Je l'ai juste écouté plusieurs fois, notamment à la soupe, un jeudi, là, je crois que c'était il y a 2 ans.
En 2024, ouais, l'avant-dernière soupe. L'extrait que j'ai passé au tout début, c'était justement le concert à la fête de la soupe en 2024.
En fait, on était là tous autour... Bon, le son était un peu à l'arrache, faut dire ce qu'il y a, la météo aussi, c'était un peu ambiance catastrophe comme ça. Et j'ai été très ému, en fait, par ce que j'ai entendu, Et puis, comment dirais-je, c'est une écoute, un orchestre amateur qui est dirigé par un pro. Enfin, c'est comme tous les projets amateurs, quand il y a un pro qui se met un petit peu à organiser tout ça, ça peut devenir très, très intéressant, voire plus intéressant que certains projets pro, en fait. Parce qu'il y a une émotion, il y a un partage, en fait. En plus, on connaît des visages. Et j'étais extrêmement dedans, jusqu'à ce que je sois perturbé, d'ailleurs, par un ou deux pochetrons et pochetronnes qui étaient derrière moi.
Ouais, on se met le souk. On boit pas que de la soupe à la fête de la soupe.
Ça m'a déstabilisé. C'est pour dire à quel point j'étais pris par la musique. Quoi.
Mais on peut imaginer, ouais, l'émotion qui doit traverser aussi des personnes qui sont pas musiciennes, pas professionnelles, et puis qui se retrouvent à appartenir comme ça à un grand corps et à... Enfin, ça porte, on imagine bien.
Ouais, puis il y a une beauté vraiment... C'est rendre ça possible un peu, je trouve. Un peu dans l'idée de cet orchestre, c'est né parce qu'on avait vu les oiseaux de trottoir qui étaient passés il y a 2-3 ans à peu près, au printemps, je pense, à cette période à Florac.
C'est un orchestre marseillais, si je me trompe.
Alors eux, ils sont vraiment... Maintenant, c'est un collectif. Ils sont 100, plus de... Même presque 200, m'avait dit Bébert. Et qui sont éparpillés, en fait, dans toute la France, qui font des tournées à vélo. C'est un orchestre cyclo-itinérant. Et là, c'était les oisillons de trottoir, donc c'était en fait le répertoire des oiseaux avec des musiciennes, musiciens, débutants. Et en fait, il y avait une fragilité, mais vraiment quand même quelque chose qui tenait. Et puis surtout, c'était beau, quoi. Juste voir, écouter, il y a quelque chose de beau. En effet, comme tu dis, qu'on ne trouve pas dans des formations plus, peut-être plus pro. Et voilà, et puis du coup, c'est quand même... Moi, j'essaie en tout cas de les emmener dans ce qui m'anime dans la musique, y compris du côté pro, c'est-à-dire les répétitions, la rencontre, l'humain, les concerts, les tournées, les résidences, tout ça. C'est des choses un peu qui rythment la vie en tant que musicien. Et le faire à 30, 35, c'est encore plus... Il y a vraiment une grosse aventure collective.
Et alors, musicalement parlant, je sais qu'il y a pas mal de reprises, un peu de tubes, on va dire, que vous orchestrez.
Ouais, orchestrer, arranger, ça marchait arrangé. Demain.
Et est-ce qu'il y a aussi des compositions? Et je me demandais, est-ce que parfois il y a aussi du chant?
Alors oui, il y a du chant. Je vais faire
les réponses donc,
à l'envers. Ouais. Il y a du chant, alors des parties solo, parce qu'il y a des, il y en a qui chantent très très bien dans l'orchestre. Des parties aussi chœur collectif, ça c'est vraiment un aspect que j'ai envie de développer, le côté choral aussi, enfin le côté pouvoir utiliser la voix et le collectif, parce que c'est assez génial et ça c'est pareil, ça transporte tout de suite avec pas grand chose, on peut vraiment faire vivre des émotions importantes. Donc oui, il y en a. Après les compos, pas encore. C'est un projet plus ou moins lointain. Je vais pas trop m'avancer parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais j'y pense un peu. C'est vrai que c'est là dans un coin de ma tête. Après, du coup, en fait, on sélectionne un peu les morceaux. C'est très réarrangé pour le coup. C'est-à-dire que il y a une dimension aussi pédagogique. En fait, j'essaie de varier les styles au maximum parce que justement dans l'idée de les faire travailler sur des choses différentes. Et du coup, voilà, c'est tout un process dans ma tête pour le choix des morceaux. Il y a des propositions collectives et tout ça. Mais... Donc, il y a quand même une partie de création dans les arrangements, ça c'est clair. Et qui se fait en fonction des pupitres que j'ai, des niveaux, tout ça.
Et est-ce qu'on peut rejoindre juste en étant au chant, au chœur? Ou il faut quand même avoir un instrument?
Ouais, pour l'instant, j'ai refusé les personnes. Alors, j'ai dû refuser, en fait, du monde. Ça ne me fait pas particulièrement plaisir. Mais pour pouvoir continuer à travailler correctement. Et du coup, non, j'ai pas pris de personne au chant pour la simple raison que c'est pas la partie dominante. Et du coup, il risquerait de pas faire grand-chose à beaucoup de moments. Quoi.
Et si on veut rejoindre l'orchestre, est-ce qu'il est extensible à l'infini, cet être grand boucan? Et si oui, est-ce qu'il y a des auditions? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer, en fait, dans ce club
question.
Très select?
Ouais, alors ça, c'est un petit nœud dans l'orchestre parce que moi, en tant que projet, quand on a réfléchi le projet, je voulais faire quelque chose de le plus ouvert possible. Il y a un truc qui vient un peu aussi des Batucada et c'est aussi inspiré d'une super fanfare du Nord. Moi, je viens du Nord de la France, qui s'appelle la Brigade des Tubes et qui avait ce truc qui était pour le coup extensible à l'infini où tout le monde pouvait venir. Alors, c'était fanfare, on pouvait pas y faire du violon par contre. Mais tout le monde venait, enfin c'était vraiment un rapport à la musique que je trouvais très très intéressant. Et j'ai essayé un peu de faire ça, mais je me suis rendu compte que c'était malheureusement pas possible parce que ça me demande quand même pas mal de boulot, faut arranger un peu en fonction. Je fais un travail assez individualisé finalement aussi avec les personnes qui sont dedans. Et du coup, je pense que juste j'ai aussi une limite. Donc ça pourrait se réfléchir. Mais pas dans la forme actuelle. Du coup, je suis malheureusement... chaque fois, ça me fait de la peine, hein, mais je suis obligé de refuser du monde.
Alors, vous avez un grand concert. Donc, c'est le samedi 9 mai et ce sera donc au Passe-Montagne, au Pont de Montvert, oui. Dans la salle polyvalente, ouais. Du Pont de Montvert, organisée par le Passe-Montagne. Et ce concert, c'est un peu une toute première pour l'orchestre en tant que performance scénique dans des conditions... comme ça. Alors, est-ce que peut-être, Philibert, tu peux nous parler justement de ces conditions?
Oui, en fait, on se croise assez régulièrement quand même avec Johannes. Et puis, un coup, je lui avais dit, si un coup tu veux faire... On pond, je crois que beaucoup d'auditeurs le savent, on a une salle bien équipée, avec une bonne acoustique, on a de quoi faire de la lumière, et c'est un espace polyvalent, donc j'en reviendrai là-dessus, mais c'est important pour ce type de configuration. Et donc, en fait, j'avais proposé à Johannes, je dis à l'occasion, si vous avez une envie, à un moment, de faire une résidence sur la partie, on va dire, scénique, c'est ouvert, on en parle. Voilà. Et puis, il m'a recontacté et voilà, on a calé une date. Alors, il s'agit, pour le coup, c'est une petite prise de risque pour la sauce parce qu'en fait, on s'engage à payer Johannes, à payer des techniciens et techniciennes de son. En fait, en l'occurrence, ils seront deux. On fait, nous, de notre côté aussi, un travail plus bénévole, mais avec des pros en lumière. Il y a une déco qui est créée exprès pour l'événement, avec tout un petit mise en place lumière, des choses qui sont plutôt originales, pas dans quelque chose de théâtral classique. on est un peu dans le détournement. Il y a un copain, Philippe, qui est sur le village et qui est éclairagiste de métier, en fait. Il travaillait à l'Opéra de Paris. Et voilà. Et lui, de temps en temps, il prend un projet comme ça à bras-le-cœur ou à bras-le-corps. Et puis, il fait une création. Et là, il fait une création pour ce projet-là. Voilà.
Donc, c'est un vrai grand spectacle.
Et on va monter donc carrément une scène en gradin, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être sur trois niveaux. Bah, ça a été quand même toute une collaboration, allers-retours avec Ziggy, l'homme de l'art du son, en fait, des allers-retours, et puis Johannes, donc sur qu'est-ce qu'on allait faire comme implantation, qu'on appelle ça. Et donc, on est tombé d'accord sur une scène en gradin à trois niveaux, en fait, pour que le public voit et entende, en fait. Et alors, il y a un boulot au niveau son aussi, c'est pas une petite console qu'il faut, c'est une grosse console. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrées, beaucoup de micros. On rassemble un peu tout ce qui traîne pour faire le job. Et là, il y a Ziggy qui va s'occuper de ça. Et puis l'idée, donc, c'est eux, c'est qu'ils s'entendent. Hein, les conditions, c'est de s'entendre aussi. C'est quand même une des conditions pour qu'un musicien puisse se libérer, c'est qu'il puisse s'entendre et entendre les autres. Donc Ziggy va essayer de faire ça avec Cléo, et puis ils vont voilà, et puis aussi d'avoir une diffusion qu'on les entende, qu'il y ait un équilibre qui soit entre tout ce qui est acoustique et électrique, ce qui n'est pas le cas quand on joue un petit peu à l'arrache, en fait, etc. C'est de trouver une balance, en fait. Hein. Voilà.
Et donc c'est une première pour le Grand Boucan.
Ouais, Johannes. C'est une première, et je remercie d'ailleurs Passe Montagne. Pour nous, c'est une étape importante aussi. Alors là, pour ce concert, parce que c'est pour le coup, on a le temps de monter toute la scène aux lumières, de faire des essais. On a une journée vraiment de présence, de travail, ce qui est en fait assez rare. Enfin, quand on a des concerts, on fait une balance, on a une heure et demie, on est 30, on n'a pas trop le temps de réfléchir à ça. Du coup, j'avais sollicité Philibert, qui était OK pour nous soutenir. Donc voilà, pour nous, déjà pour l'orchestre en tant que tel, et après aussi, même pour tous les musiciennes et musiciens, c'est une occasion d'appréhender cet espace scénique qui n'est pas forcément confortable aussi quand on n'a pas l'habitude. Il y a des lumières, etc. On se voit pas bien, on s'entend sonoriser, donc du coup, c'est comme parler dans un micro, c'est un peu différent, ça peut être intimidant. Donc voilà, c'est une super opportunité pour nous de faire avancer le projet et puis de faire un super concert à la fin. Enfin, à la fin de la journée.
Oui, c'est une fête.
Oui. Mais aussi, l'idée, c'est que si ça se passe bien, vous aurez eu cette première expérience scénique et vous saurez un peu comment, justement, il faut vous sonoriser. Donc, pour de potentielles tournées, ça sera aussi...
voilà, surtout, en fait, on tourne en extérieur beaucoup. On a trouvé une config qui fonctionnait en extérieur, avec les murs, etc. Plus légère, on va dire, en sonorisation. Mais là, par exemple, si on nous proposait dans une salle équipée, etc., bah là, moi, j'avais pas de fiche technique, j'avais pas d'éléments vraiment solides à donner, donc c'est un peu l'objectif.
Ouais, il y aura une base. Le 9 mai, donc, à la salle polyvalente du Pont de Montvert. Et alors, le passe-montagne, Philibert, qu'est-ce qui arrive d'autre
Trois jours avant, c'est assez marrant. Trois jours avant, on reçoit un spectacle de théâtre qui s'appelle Larzac, point d'exclamation. Mais pas que nous, hein, c'est un spectacle qui fait une tournée dans tout le sud de Lozère. Il passe à Saint-Étienne, Vallée française, le 7, Saint-Michel-de-Dez, le 8, et chez nous, en première, le 6. Et avant, il passe à Grèze, en moyenne Lozère, on va dire.
Et le 6, il sera à ce micro, d'ailleurs, Philippe Durand, le metteur en scène, pour
vous
en parler.
Voilà, que vous allez pouvoir l'interviewer, ça c'est chouette. Et voilà, donc d'ailleurs c'est assez rigolo parce que du coup, je l'ai pas dit encore à Philippe Durand, mais on va mettre le public à l'envers dans la salle et on va occuper, parce qu'on est obligé, les histoires de pont, etc., de monter la scène en gradin avant. Donc on va mettre le public pour le coup dedans, de manière à ce que le public voit bien Philippe Durand. Il n'a pas tellement l'habitude, c'est en général des salles plutôt à l'arrache qu'il fait.
Ah, donc le public sera assis sur les gradins, ouais, sur lesquels ensuite joueront les musiciens.
C'est ça,
ouais,
on va inverser, voilà. Mm-hmm. Et puis, Larzac, c'est quand même... ça parle du Larzac de maintenant, en fait. Hein. J'engage tout le monde à aller quand même un peu réviser Lutte du Larzac sur Wikipédia, parce que c'est quand même un pavé. Même ceux qui l'ont vécu, c'est bien de se rafraîchir la mémoire. Et là, il a été donc à la rencontre les paysans et les habitants et les paysannes, ou ex-paysans et ex-paysannes, puisque savoir, il y a quand même 40 ans de gestion collective des terres, et ça, c'est une expérience unique au monde et il va nous raconter tout ça. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est une utopie, mais une utopie qui marche.
Voilà, donc c'est des suites évidemment de la mobilisation qui a démarré en 1971 sur le Larzac, où les paysans s'opposaient au projet d'extension du camp militaire. Ouais. On en reparlera la semaine prochaine.
Ouais, et puis il y aura surtout plein d'anciens qui ont rendu leur carnet militaire à l'époque et tout ça, qui seront dans la salle. Donc ça va être du lourd.
Et ben merci beaucoup à tous les deux de votre passage. Tu voulais rajouter quelque chose, Johannes?
Ouais, on passe un extrait du coup après. Ouais. Ouais, j'avais juste un petit big up à faire, parce que tout à l'heure je disais je suis pas tout seul à gérer l'orchestre. Et voilà, il y a une personne qui m'aide vraiment particulièrement, qui est Kelly, qui m'aide du coup à faire tout cette organisation un peu du collectif qu'il faut aussi gérer, et qui est donc la coordinatrice de l'orchestre. Et voilà, je le dis parce qu'on va l'entendre dans l'extrait.
Et ben on la salue. Et donc on va écouter voilà un extrait donc d'un enregistrement de l'orchestre du Grand Boucan. Donc il y a plusieurs choses que tu m'as fait passer, Johannes.
Je peux mettre le complet entier.
C'est le
attends, comme...
ah oui, entier. Ok, ouais. Je lance. Et ben merci beaucoup. Et donc on donne rendez-vous à tout le monde le 9 mai au pont. Et attention à la concurrence, hein, parce qu'il y a un concert de rap à Florac ce même soir, donc organisé par Los Potasso et Odeg Productions. On les salue aussi. Il faudra faire un choix. Le Grand Boucan tout de suite sur Radio Barthas.
Merci. Thank you.
C'était le grand Boucan sur Radio Bartas. Ça donne vachement envie de faire la fête. Vivement le 9 mai et leur concert donc à la salle polyvalente du Pont de Montvert. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour de prochains épisodes. Alors exceptionnellement, mardi, il n'y aura pas d'émission. Donc je vous donne rendez-vous mercredi à midi et des poussières précises. Et je recevrai donc, comme on l'a évoqué avec Philibert, je recevrai Philippe Durand pour sa pièce Larzac. Salut.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.